VOA Afrique, les infos. À Washington.
Eric Manilakidza avec vous, 22h à Libreville au Gabon, avant de suivre Michel Joseph dans English USA. D'abord, le tour de l'actualité mondiale. Le groupe djihadiste État islamique a annoncé aujourd'hui la mort de son porte-parole, le Syrien Abu Mohamed al-Adani, tué dans la province d'Alep, dans le nord de la Syrie, ravagé par les combats. Abu Mohamed al-Adani était devenu au fil des mois un personnage important au sein du groupe extrémiste, au point que les services de renseignement occidentaux avaient tendance à le considérer comme le ministre des attentats chargé de motiver des djihadistes isolés et de superviser des campagnes de terreur en Occident. Et en Afrique, les Gabonais attendent toujours les résultats de la présidentielle de dimanche. De longues délibérations sur le vainqueur se poursuivent. Entre-temps, le principal opposant autoproclamé gagnant, Jean Ping, n'excite plus ses partisans. Idriss Fall est notre envoyé spécial à Libreville. Apparemment, M. Ping a changé de langage pour appeler au calme, n'est-ce pas?
Absolument. Jean Ping vient d'appeler au calme, mais maintient qu'il est vainqueur de l'élection. La CENAP a démarré encore avec du retard sa session plénière, ce qui fait que la nuit sera extrêmement longue avant de connaître les résultats, peut-être au petit matin. Pour le moment, Libreville ressemble à une ville morte. Les rues sont désertes, les magasins sont fermés depuis la fin de l'après-midi et tout le monde a peur de ce qui va se passer après proclamation des résultats. Et tout le Gabon attend de ce qui sortira de la CENAP et de ce que le ministre de l'Intérieur va annoncer.
Et Idriss, un des conseillers du président ivoirien, a sauté.
Mamadi Diané a été accusé par Libreville en fait d'ingérence, d'avoir tenté de corrompre des membres de la CENAP à la démission. Donc Libreville a tapé du poing sur la table et immédiatement Alassane Ouattara a limogé Mamadi Diané. Et je crois que c'est le même Mamadi Diané qui est un citoyen guinéen qui a habité à Washington.
Merci Idriss pour toutes ces précisions. On aura donc les résultats dès que seront annoncés. Plus de 800 migrants africains qui voulaient rejoindre l'Europe par la Libye et un groupe de passeurs ont été arrêtés au Soudan, près de la frontière libyenne. Entre juin et août, ont indiqué aujourd'hui des responsables des services de sécurité soudanais. Parmi les personnes interpellées figuraient 347 Érythréens, 130 Éthiopiens, 90 Soudanais. Après un triste record hier avec 6500 migrants secourus, les opérations de sauvetage se sont poursuivies aujourd'hui au large de la Libye avec 3000 personnes sauvées dans des opérations coordonnées par les gardes-côtes italiens. Un collaborateur de Moïse Katumbi, nous sommes en RDC, candidat déclaré à la présidentielle, a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison par un tribunal militaire de Lubumbashi dans le sud-est du pays. Le Parlement égyptien a adopté aujourd'hui une loi régulant la construction d'églises, un texte qui est loin de faire l'unanimité au sein de la communauté chrétienne copte, qui se plaint depuis des années de discrimination ailleurs dans le monde. Les États-Unis ont affirmé aujourd'hui avoir obtenu de leurs deux alliés, la Turquie et les milices kurdes impliquées dans des combats dans le nord de la Syrie, une cessation des hostilités, mais Ankara n'a pas confirmé. Des combattants syriens soutenus par des groupes kurdes ont confirmé l'arrêt des hostilités avec l'armée turque, mais les forces kurdes syriennes n'ont pas réagi directement aux déclarations américaines. Et enfin, le procès en destitution de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, était aujourd'hui dans sa dernière ligne droite au Sénat avant un vote historique demain qui, sauf immense surprise, éjectera du pouvoir la gauche dans le plus grand pays d'Amérique latine. L'avocat de la Défense et ancien ministre de la Justice, José Eduardo Cardoso, a affirmé que Dilma Rousseff, première femme élue à la tête du Brésil en 2010, était menacée de destitution pour avoir remporté une élection qui contrariait des intérêts et parce qu'elle n'a pas tenté d'empêcher les enquêtes sur la corruption. Fin de ce bulletin, au revoir.
Nous allons retrouver notre ami journaliste Edward. Aujourd'hui, il va s'entretenir avec Sally, la femme de Modou. Saviez-vous que Sally avait été immigrée en France? Elle nous montrera que Paris, la ville lumière, n'est pas toujours un Eldorado pour beaucoup d'immigrés. Vous entendrez la conversation entre Sally, l'immigré, et le journaliste Edward. Vous répondrez par vrai ou faux, true ou false, à ces énoncés. 1. Sally était allée à Paris pour étudier. 2. Elle a été sans papier à Paris. Vous allez maintenant répondre à ces trois questions. 1. Dans quel type de quartier habitait Sally à Paris? 2. Pourquoi lui était-il difficile de trouver un bon boulot? 3. Comment était-elle coiffée? Vous allez enfin apprendre des termes en relation avec l'immigration et savoir intensifier une opinion en ajoutant « to » à un adjectif.
Sally, could you tell our dear listeners where you chose to immigrate to?
France, of course. We were all dreaming of Paris. Paris, la ville lumière. We thought if we moved there, we would be happy. Ah!
But Paris is a nice city, isn't it?
Of course. But I lived in a banlieue chaude, very far from Paris.
What's a banlieue chaude?
As they say there, it's a hot neighborhood.
Hotter than Senegal?
Not that kind of hot. There was no peace. The streets were full of protests, demonstrations, fights with the police, that sort of thing.
Sounds like a tough life. Did you work in France?
I had a job as a hairdresser. But the salary was way too low, of course. If you have legal documents, you can get a better salary.
Let me guess, you couldn't get any?
Nope. My student visa had expired. I became a sans-papier after that.
Couldn't you apply for a residence permit?
Impossible. Well, possible. If I accepted to marry a big, ugly, rich man, it would be possible. But I refused. Too bad.
Any funny stories or anecdotes for our listeners?
Plenty. While we were there, all four of the girls in the apartment used the same Navigo pass to take the metro.
How did you manage that? Isn't there a photo on the card?
Yeah, but we all had the same dreadlocks, so they didn't know the difference. If we got caught, we would all cry the same big tears.
And did it work?
Of course. No passenger would let a controller take a poor crying girl to the police.
Vous avez entendu dans ce dialogue Edward et Sally. L'énoncé 1 est vrai. Sally était allée à Paris pour étudier. L'énoncé 2 est vrai. Elle a été sans papier à Paris. Voilà les réponses aux questions. 1. Dans quel type de quartier habitait Sally à Paris? Dans une banlieue chaude. 2. Pourquoi lui était-il difficile de trouver un bon boulot? Elle était sans papier. 3. Comment était-elle coiffée? En dreadlocks. Vous avez remarqué que nos deux protagonistes ont utilisé des temps du passé pour parler de choses passées. Répétez ces phrases.
The salary was way too low. Too bad.
Le mot too ou trop en français, suivi d'un adjectif, intensifie l'action exprimée. Répétez d'autres exemples. It was too difficult to find a job. It was too low. Écoutez aussi cette phrase entendue dans le dialogue.
If we moved there, we would be happy.
Cette phrase exprime la condition en utilisant if. Écoutez ces autres exemples. If she is ready, we will go. If we don't wait, she gets angry. Vous remarquerez dans ces phrases que if peut être suivi d'un futur ou d'un présent. La possibilité du résultat de l'action est plutôt probable. C'est un conditionnel factuel. Vous avez entendu le journaliste Edward et Sally, l'immigré, parler de la vie en France. Vous savez exprimer l'accent en utilisant « to ». Vous savez aussi exprimer la condition en utilisant « if » et entendre le conditionnel factuel. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site Internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Dans cette leçon, vous allez entendre le verbe to be au présent, c'est-à-dire le verbe être, avec la contraction. Par exemple, what is his name? Littéralement, quel est son nom? Comment s'appelle-t-il? Avec la contraction, en anglais, on avale le is et vous entendrez un s à sa place, un sifflement. What's his name?
What's his name?
What's her name? Pour dire « What is her name ?»« What's her name ?» Les pronoms personnels à la troisième personne du singulier « he » et « she » et les pronoms possessifs « his » et « her ». « He is from the US. » Il vient des États-Unis. « He » il. « He is from » c'est-à-dire littéralement « il est des États-Unis »,« il vient des États-Unis ». Contraction du verbe conjugué « is », vous n'entendrez que le « s ».« He's from the US ».« She's from the US ». Écoutez la conversation qui va suivre. Je vous prépare un peu avec le vocabulaire.
Good morning, Kathy. How are you this morning?
Ils se disent « bonjour ». Good morning. How are you this morning? Comment vas-tu? Comment allez-vous ce matin? How are you this morning? Vous allez entendre une réponse très américaine. I'm great.
I'm great.
C'est la contraction de I am great. Littéralement, je suis super. Plus correctement, je me sens super bien. I am great. I'm great. And you? Et toi? Et vous? Autre réponse très américaine, pretty good.
Pretty good.
Traduit littéralement, joliment bien. Pretty good. Joliment bien. Et plus correctement en français, pas mal. We have a guest. Nous avons un invité.
We have a guest with us today.
A guest, un invité. Listen, écoutez.
Good morning, Kathy. How are you this morning?
I'm great. And you?
Pretty good.
We have a guest with us today.
What's his name?
His name is Robert Harris.
Robert Harris?
Yes, Robert Harris. He's from the United States.
Écoutez et répétez. Listen and repeat.
What's his name?
Quel est son nom?
His name is Robert. His name is Robert.
What's her name?
Vous entendez la contraction?
Her name is Kathy. Her name is Kathy.
What's your name?
Quel est votre nom?
My name is Max. My name is Max.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. Au micro, Michel Joseph. Cette fois-ci, Martin accompagne un groupe de jeunes gens et leur entraîneur dans une excursion à la montagne, a mountain hike. They are members of an outdoor adventure club. Ces jeunes appartiennent à un club sportif de plein air. Alors, êtes-vous prêt à prendre part à cette grande aventure? Au cours de cette leçon, vous apprendrez à décrire la nature. You will learn how to describe nature. English USA est diffusé en direct de Washington au micro Michel Joseph. Aujourd'hui, vous allez apprendre à décrire la nature. You're going to learn how to describe nature. Martin parle avec ses jeunes filles et garçons et avec les surveillants de leur club. Il le trouve très intéressant. I don't think there are clubs like this one. Je ne pense pas qu'il y ait des clubs comme celui-ci. Écoutez le reste.
Did you start the club?
Yes, we did.
Why? Aren't there already several clubs like this one?
Paul, you answer that.
I don't think there are clubs exactly like this one. We wanted an outdoor club for both boys and girls.
And we wanted one for 9 to 12-year-olds.
Also, it's just a local club. It isn't national. These boys and girls all live in the valley below.
Mostly, we love these magnificent mountains. We wanted to help children love them, too.
I was born in the high mountains of southern France. My parents moved to Wyoming when I was 9 years old. We spent all of our free time hiking and camping in the mountains. I met Jeanette in the mountains.
In Wyoming?
Yes. I was working in one of the parks. I was a teacher in the winter, but I worked in the park in the summer. Now we spend the summer with the children in the club.
We teach them.
I want to talk to the children, too. Is that all right?
Sure.
Hannah, come here, please.
Hannah, this is Martin Lerner. He would like to ask you a few questions.
What about?
About the young adventurers. Is that all right?
We don't call ourselves that. It sounds like a movie.
What do you call yourselves?
I don't know.
Do you enjoy being outdoors?
I love it. It's my favorite time of the year.
What do you like?
I especially like the mountains.
Can you describe what you like?
It's so peaceful and quiet. All you can hear are the small birds and the little animals on the ground.
Do you like to look at the mountains?
Oh, sure. We're in the mountains, but they go on and on. Look over there. See, there are more mountains. Then look over there. More and more mountains. They're far away, and they're so beautiful.
It seems so quiet. Don't you get bored?
No, living outdoors is exciting.
Aren't you afraid sometimes?
Not with the other kids, and not with Jeanette and Paul. Besides, it's an adventure. That's why we belong to the club.
Where are we going to hike today?
Look over there. Do you see that big white rock? There's some green grass on the hillside below.
Are there some yellow flowers, too?
Yes. That's where we're going for a picnic.
Pour mieux décrire le cadre naturel, nous devons parler des formes, des couleurs et des dimensions. Formes, shapes, les couleurs, colors, et les dimensions, sizes, ou bien the size, au singulier. Écoutez.
Magnificent mountains.
High mountains.
Peaceful and quiet. Small birds, little animals.
Pour compléter notre description du cadre naturel, nous pouvons aussi parler de l'emplacement des éléments naturels, l'un par rapport à l'autre. Par exemple, on the ground, ou bien on the hillside below, sur la colline, en dessous. Écoutez.
On the ground, far away, on the hillside below.
In the valley below of southern France.
Martin pose des questions sur quelques endroits. Essayez de répondre en utilisant des phrases complètes. Par exemple, « Where do the children come from ?» Il demandera « D'où viennent les enfants ?» Vous pouvez répondre ce que vous voulez ou vous pouvez répondre ce dont vous vous rappelez. Ou bien « Where did Paul come from ?» D'où venait Paul ? Et répondez aussi bien que possible.
« Where do the children come from ?» Where did Paul come from? Where did Jeanette work in the summer? Where do you work in the summer? Thank you, Hannah. I enjoyed talking to you. I'll see you on the hike.
Exerçons-nous. Exerçons-nous avec le vocabulaire et dans le contexte de cette leçon. Vous êtes en excursion. You are on a hike. Vous êtes en excursion dans la nature. Outdoors. Au plein air. Can you describe what you like? Pouvez-vous décrire ce que vous, vous aimez? Can you describe what you like in nature, dans la nature, ou au plein air? Outdoors. Do you like the mountains? Aimez-vous les montagnes? Ou la montagne? Aimez-vous la montagne? Do you like the lake? Aimez-vous plutôt le lac? Do you like the river? La rivière? Or, ou bien, do you like the seaside? Aimez-vous la mer? I love to go to the mountain. I love to go to the seaside. I love rivers. I love lakes. Je les aime tous, moi. Et vous? Do you like open spaces? Aimez-vous les grands espaces, les espaces ouverts? Do you like open spaces? Look over there. Regardez là-bas. Look over there. There is some green grass on the hillside. Il y a de l'herbe verte sur la colline. And there are some yellow flowers too. Et il y a de jolies fleurs jaunes aussi. And there are some yellow flowers too. Can you hear the small birds? Pouvez-vous entendre les petits oiseaux? And the little animals on the ground? Et les petits animaux au sol? Can you hear the small birds? Look at those trees. Regardez ces arbres. Look at those mountains. Regardez ces montagnes. They are high. Ce sont de grandes montagnes, élevées. They are magnificent. Ils sont magnifiques. Regardez ce sentier. Look at this trail. Isn't this trail steep? Regardez ce sentier. N'est-il pas rapide? Un sentier plutôt difficile à négocier. Can you describe what you like now? Do you like fields of flowers, des champs de fleurs? Do you like peaceful and quiet countryside? Aimez-vous le paysage paisible et calme? Peaceful and quiet.
I hope that the hike did not make you too tired.
J'espère que l'excursion ne vous a pas trop fatigué. Aujourd'hui, vous avez appris à décrire la nature.
Today, you learned how to describe nature.
Alors, sortez et amusez-vous bien.
But make sure you practice hard. Until next time, have a great week. Goodbye.
Voulez-vous mieux parler l'anglais?
C'est fait.
avec Anglais Télé, notre programme interactif télé multimédia.
C'est à votre tour de parler.
It's your turn to talk.
No, it's my turn to talk.
No, it's their turn to talk.
Mais vous aurez l'occasion d'intervenir en direct
et de pratiquer l'anglais avec
Michel
et Roger.
Nous répondrons à vos questions.
Nous vous aiderons à formuler vos phrases. Participez à Anglais Télé.
Retrouvez-nous aussi sur notre groupe Facebook Anglais Télé.
Hello and welcome to Anglais Télé. My name is Michelle Joseph. You can find us also on Facebook, Anglais Télé. I have a guest with me here today.
Daniel Crafton. Je suis Daniel Crafton. Merci, Michelle.
Je vous en prie. Welcome, Daniel. Vous êtes le bienvenu. And we are talking about forms of communication. We've already talked about talking and sounds, and now we're going to go to a learned technique to communicate, which is writing, to write, le verbe écrire, and to write. Voilà. So this, of course, expands communication, right?
Right.
Because write, to write, and yes, of course.
Into books and newspapers and magazines and all sorts of sources that people read that,
right.
What you write.
Letters, right. Des lettres, des livres, les journaux, les magazines. Tout ce qui a trait à l'écriture. Everything to do with writing, you can discover through these mediums.
And
what's your favorite, Dan?
Favorite writing?
Yes. What, do you like newspapers? Do you like books?
Books.
Books. Me too. I have a soft spot for books.
I read a book all the time.
Yeah, me too. I'm a bookworm.
But I like classic writers.
Yeah.
The problem with classic writers, you know, is that it depends on what language they write in. It can be confusing. It can even cause wars.
Oh.
It can cause peace.
Oh, absolutely.
Right?
And it can unite people. I mean, just
exactly.
Like...
Exactly.
I forgot the Russian author's name, but all these huge, big...
Tolstoy,
exactly. Yeah. These human topics, they just transcend time and culture. So if anyone can read these major books, classics...
Well, books can, like Uncle Tom's Cabin...
Oh, okay, La Cage de l'Oncle Tom.
Right. It's a book, an American book, by a woman named Harriet Beecher Stowe.
Yes, that revolutionized the whole...
Well, it also caused the Civil War.
That's true, because, you know, she created a personal relationship that suddenly brought the status of slavery into the homes of people as they were reading, and they could relate to the injustice.
They could relate to the injustice, and that's what caused the war.
Right.
Because they wanted to keep their slaves and...
Right, those who wanted to keep them...
Slaves.
Right.
And they caused the country to break in two.
Right, exactly. So books, writing is very powerful.
Oh, gosh, yes.
So is writing more powerful than talking?
I think it is. Well, the Gutenberg Bible... The
right.
First book ever written.
That's true.
You know?
I guess writing is a continuation and an expansion of that initial talking.
And the books that were written that were very controversial, like some we've just named.
Right.
Caused peace and wars and enlightenment of education.
Oh, absolutely.
And knowledge.
Absolutely.
Right?
And just the act of learning how to read in a language, it takes quite a few...
Oh,
it
yes.
takes a while. And then, of course, some languages, the reading is in different directions.
Right. Up and down and right and left.
Right. Up and down for Chinese characters.
And Japanese.
Japanese and I think Korean as well. I'm
right.
not sure.
No, Korean's right and left.
Oh, right and left for Korean.
Right and, left.
And I think for Arabic, it's left to
right.
Right. And... So
and English is right to left.
English and a lot of the Romance languages are
French,
right to,
Italian.
If you're not reading many books, many newspapers, you can stay locked in to a particular narrow viewpoint.
Right. Well, the book you talked about, War and Peace,
right.
is 1,200 pages.
Exactly.
You know?